Sud Radio 10h midi, débat.
Un si grand soleil, plus belle la vie, voilà. Puisqu'il y a des débatteurs au croisé, Jérôme Bertin dans le couloir aujourd'hui. Alors Jacques Myard, vous n'aurez pas cette chance. Vous regardez plus belle la vie de temps en temps, Jacques Myard?
Bonjour. Oh, je perds pas mon temps, vous savez.
Oh, ça c'est pas gentil alors, hein. Ça c'est pas gentil du tout, c'est une très bonne série.
Ouais, mais on s'en fout, il y a tellement de séries à regarder.
Alors, oui, on en a une ce soir à 20h30, avec tous les candidats.
Ah oui, sur France 2, oui, c'est la dernière d'une série.
C'est la dernière.
Elle est importante, ça.
Pas de temps à perdre.
Pas de temps à perdre, bon.
Ah bah si,
vous faites quoi le soir?
Vous savez, quand vous gérez une ville de 24 000 habitants, eh bien, vous passez votre temps à regarder des parapheurs, à remonter des dossiers. On est en train d'acheter l'hippodrome de Maison Lafitte, ça ne se fait pas en claquant des doigts.
Monsieur le maire, vous savez que j'ai habité Maison Lafitte, j'étais à l'Ermitage.
Nicolas Jeanneté, qui est directeur des centristes et conseiller de Paris.
Eh bien, écoutez, je vous félicite, je regrette simplement que vous n'ayez pas y payer des impôts.
mes parents l'ont payé pendant des années, mais...
Très bien, bravo.
Quel débat, nous avons un autre élu avec nous sur ce plateau, Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine et secrétaire national du PS. Bonjour.
Bonjour,
ravi de vous recevoir aujourd'hui.
Honoré Patrie,
Jacques Myard, donc maire LR de Maison Lafitte, et Sophie de Menton qui est restée avec nous, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Joséphine Baker au Panthéon, Zemmour qui va déclarer sa candidature aujourd'hui. Est-ce que c'est le bon timing avec cet hommage justement à Joséphine Baker, avec le dernier débat des Républicains? J'aimerais bien qu'on parle des antifas, deux poids, deux mesures. Ces antifas qui cassent, qui manifestent violemment, en particulier contre Éric Zemmour. Et c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué le doigt d'honneur, mais on n'a pas beaucoup évoqué tout ce qu'il y a eu, tous les troubles à l'ordre public qu'il y a eu et qui se produisent assez régulièrement quand ceux qu'on appelle les antifas ne sont pas contents. Et puis peut-être que nous parlerons de Micron. J'avoue que je ne sais pas très bien quoi dire parce que je pense qu'on ne sait pas grand-chose.
C'est
pour ça qu'on en parle d'ailleurs.
Mais oui, non, mais après on peut dire faut-il fermer frontières, faut-il s'affoler. Bref.
Les scientifiques ne nous disent pas grand-chose pour l'instant.
Beaucoup de sujets.
C'est plutôt rassurant.
Jacques Myard, commençons avec vous, avec un sujet important.
Oui, alors c'est un coup de gueule.
Oui.
C'est un coup de gueule contre la maire.
Ça m'étonne venant de vous.
De Strasbourg. Mais non, mais il faut quand même... C'est ça, Sud Radio.
Parlons vrai.
C'est un coup de gueule contre la maire de Strasbourg qui vient de bannir, n'est-ce pas, le foie gras des réceptions la mairie. Alors, elle a le droit, mais je trouve qu'elle, premièrement, c'est contre-productif, parce que ça, c'est le genre de choses, quand un maire fait ça, c'est le meilleur moyen de faire de la pub justement pour le foie gras et de faire un bras d'honneur au maire.
Bien sûr.
Donc, je crois que c'est une erreur. Je comprends parfaitement qu'il y a un problème de souffrance animale, mais il ne faut quand même pas exagérer non plus, parce que si on va dans ce sens-là, je pense qu'il y aura beaucoup de conséquences sur un certain nombre, par exemple, d'abattages, sur lesquels, si jamais on commence à parler de tout ça, eh bien, on aura des retours de bâton. Donc, je crois que c'est une bévue monumentale. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je raffole pas du foie gras, encore qu'il m'arrive d'en manger et j'en mange. Mais alors,
j'adore le foie gras.
Oui, mais je suis désolée, là, je suis très, très nuancée sur ce sujet. Le gavage des oies, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est quand même une souffrance animale terrible. Je suis désolée, j'y suis très sensible.
Quand vous abattez un bœuf, c'est aussi de la souffrance.
Un veau, vous mangez du veau.
Attendez, je suis nuancée. Oui. Je suis sensible à la souffrance animale. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de continuer à manger des animaux. Des animaux morts, comme disent les Verts, mais en évitant ces souffrances. Je pense qu'il y a des progrès à faire. Si le foie gras, ça a été terriblement dénoncé, que la mère décide de donner l'exemple et de ne pas en manger. J'ai pas dit que j'en mangerais pas, j'ai pas dit que ceux qui en mangeaient étaient criminels, mais elle a le droit de le faire.
Ça peut être le rôle du politique
D'attirer l'attention sur ces souffrances animales.
Alors, c'est vraiment du en même temps à la Macron. Hein.
Pardon ?
Vous défendez une thèse à la Macron qui est due en même temps. Hein. Bravo.
C'est ça.
Est-ce qu'elle souffre vraiment? C'est aussi la question qu'on peut se poser.
D'après ce que je vois, c'est en même temps. Les images
ne sont pas belles, c'est vrai, effectivement.
Bon. Je crois que tous les animaux souffrent. Bon, franchement, tous les animaux.
Moi, je voudrais le point de vue de l'élu que vous êtes. Est-ce que c'est le rôle du maire de dire je ne mettrai plus de foie gras à ma table?
Est-ce que vous le feriez?
La première question, Romain effectivement, à laquelle je réponds bien volontiers, est-ce que je le ferai moi? Non, pas spécialement. Ce qui m'empêche pas d'être sensible aux questions de souffrance animale, mais je partage les questionnements qui sont les vôtres sur les souffrances, etc. C'est pas la première fois que, pour faire symbole et dénotant quand même d'un certain sectarisme, on a des élus verts qui décident de bannir, d'ostratiser. Et d'ailleurs, la maire de Strasbourg, je l'ai lu ce matin, alors j'ai pas les détails de cette affaire-là, mais elle a banni le foie gras et aussi les élus socialistes de sa majorité,
puisqu'elle a retiré
sa délégation à une de ses adjointes après la démission socialiste.
On peut dire aussi que la mairie est riche, parce qu'offrir du foie gras à table à la mairie, d'ailleurs, c'est quand même
c'est notre argent en
termes de rigueur budgétaire, c'est pas terrible non plus.
Bon, maintenant il y a du foie gras, c'est bon marché.
Oui,
justement. Ouais,
c'est comme le champagne, il y a du mousseux.
Et d'ailleurs, on m'expliquait hier que le foie gras est originaire d'Alsace. En fait, c'est devenu une tradition dans le sud-ouest.
C'est une tradition.
C'est donc un reniement des traditions alsaciennes en plus.
Ouais. Alors plusieurs réactions. Stéphane nous dit les canards et les oies se gavent naturellement. Il faut redescendre sur terre. Sylvie nous dit arrêtez de comparer le gavage industriel et le gavage traditionnel.
Ah,
et
ça on sait pas.
Xavier nous dit je suis très sensible à la souffrance humaine de ceux qui perdront leur emploi si on interdit le foie gras, souffrance des employés. C'est une très grosse industrie également.
J'ai pas dit qu'il fallait interdire, j'ai dit qu'il y avait une souffrance animale. Est-ce qu'on peut chercher comment faire pour... On fait tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable qu'on ne soit pas
et
capable.
Dans les saucisses de Strasbourg, il y a aussi de la souffrance animale. Hein. C'est une dérive, à mon avis, sectaire. Et c'est l'idéologie plein pot. Donc il y a un moment, ras-le-bol.
Et oui, ras-le-bol quand vous voyez des élevages de poulets tous entassés les uns sur les autres.
En batterie,
non,
oui.
Mais il y a des problèmes. Grâce à quoi? Grâce à des réactions.
C'est un problème sanitaire. Ouais. Ça, c'est un problème sanitaire.
Et là,
je vous donne raison.
Et un teasing d'enfer, vous nous direz ce que vous pensez du sapin. du sapin pas mort, mais mort, qui a été édifié à Bordeaux. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats entre 11h et midi, avec aujourd'hui Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, Nicolas Jeannetet, directeur des Centristes et conseiller de Paris, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique, et Romain Colas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Joséphine Baker au Panthéon, Zemmour qui déclare sa candidature aujourd'hui, les antifas deux poids deux mesures, et puis Omicron, faut-il fermer les frontières? Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traité, mais on va essayer. Donc nous parlions de, vous évoquiez le gavage, enfin la maire de Strasbourg qui interdit le foie gras. Il y a donc le sapin, je ne sais pas si vous l'avez vu, Jacques Myard, le sapin de Noël de Bordeaux qui est en verre et en verre recyclé en métal qui pèse plusieurs tonnes, donc pour éviter les arbres morts. Et effectivement, c'est sont des décisions de maire écologiste. Romain, vous, on reste également un peu dans l'idéologie. Avec vous, c'est un coup de gueule.
Oui, un coup de gueule. Alors pour le coup, je suis le premier à dénoncer les poussées, parce que ça arrive, de sectarisme d'un certain nombre de maires Europe Écologie Les Verts. Autant, il y a une maire Europe Écologie Les Verts qui dirige une majorité plurielle à Besançon, qui s'est fait tomber dessus à bras raccourcis, d'abord par une élue du Front National, ensuite par Éric Ciotti qui a sauté là-dessus, et ensuite par tout ce que la droite de la droite compte de twittos. Au départ de l'affaire, on a une manifestation qui s'appelle Fantastique Décembre. Fantastique Décembre, ça existe depuis 2019 à Besançon, et c'est en fait une opération commerciale.
Donc c'est une grande banderole lumineuse.
Et c'est pas qu'une banderole, c'est une opération commerciale sur le mois de décembre où les commerçants de Besançon font un certain nombre d'animations, de promos, etc. Et qu'est-ce que nous dit le Front National, Éric Ciotti, puis toute la fachosphère?
C'est
un scandale. On a ripolliné la façade, mais ça reste le même fonds de commerce. C'est un scandale. On fait disparaître les racines chrétiennes de notre pays puisqu'on remplace Joyeux Noël par Fantastique Décembre. Et ça démontre à quel point il y a une forme d'hystérisation du débat public. Je ne dis pas qu'il y a une minorité agissante et que moi, je combats à titre personnel, adepte de la cancel culture, etc. Mais en fait, ces gens-là sont les alliés objectifs et alimente toute cette extrême droite ou droite extrême qui a envie de sauter sur la moindre polémique et parfois même de l'inventer pour alimenter une petite boutique électoraliste. Mmh. Et donc là, on a un exemple parfait d'un fait qui est falsifié par quelqu'un qui prétend exercer quand même une responsabilité particulière dans la République, qui est celle de la présidence, en l'occurrence Éric Ciotti, pour satisfaire un projet politique. Et moi, je désespère, honnêtement, je désespère. Il y a des gens avec qui je peux débattre, dont je ne partage pas les convictions, mais dont j'estime qu'ils restent dans un champ républicain où on ne prend pas les gens pour des cons et où on assume de discuter sur des vérités et à assumer des désaccords. Mais quand on transforme les faits, c'est exactement la même chose, on en reparlera après, que Zemmour qui tente de réhabiliter Pétain et qui met sur un même plan les résistants et Pétain. Ces gens-là réécrivent l'histoire, que celle-ci soit ancienne ou soit immédiate, au service d'un projet politique et de leur idéologie. C'est minable.
Oui, sur le principe, oui, je pense que là, c'est plutôt les réseaux sociaux qu'il faut accuser, parce que je pense que Éric Ciotti et les autres, alors c'est une erreur d'Éric Ciotti, de ses conseillers en communication, ils ont vu la photo, ils se sont dit pourquoi il n'y a pas marqué Joyeux Noël, et effectivement, ils sont partis là-dessus. Je crois qu'il y a aussi.
Mais ça ne part pas de nulle part non plus. Quand je dis ça ne part pas de nulle part, c'est-à-dire que le Joyeux Noël a quand même été supprimé de notre. Vocabulaire. Je voyais une commissaire européenne recommande de ne plus utiliser Noël, les noms chrétiens et le masculin qui sont jugés non inclusives et offensantes.
Alors
donc
moi je vais vous répondre sur le fond. Quand je dis qu'il y a des gens, pardonnez-moi, qui considèrent qu'il faut effacer notre histoire pour ne froisser personne,
c'est la cancel culture.
Je pense que c'est une minorité, mais que cette minorité, il faut la combattre. Ça sert à rien non plus de sauter sur n'importe quoi. Mais moi, je suis maire d'une commune socialiste d'une commune de banlieue. Et chez moi, il y a un marché de Noël, il y a le spectacle de Noël, il y a le cinéma de Noël. J'ai aucun problème avec ça. Et quand je croise des gens dans la rue, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur couleur, parce que moi, je m'adresse à des citoyens, je leur dis Joyeux Noël. Voilà. Et je vais même vous dire,
il y a des gens qui sont,
moi je suis absolument pas croyant, qui sont croyants ni de près ou de loin, ou qui peuvent être juifs, musulmans, etc. Quand vous leur dites Joyeux Noël, ils comprennent simplement que vous leur souhaitez de passer de bonnes fêtes et ils n'ont aucun problème avec ça.
Aux gens.
On se fait des nœuds au cerveau.
Mais il y a quelque chose que vous avez dit qui est très important, c'est que qu'on fait ses conseils en communication. Vous avez tellement raison, c'est insupportable. Les candidats, on a l'impression qu'ils ne pensent plus à leurs conseils en communication, ils n'ont plus de bon sens, ils ne réfléchissent plus et il n'y a plus de nuance. La nuance est la preuve d'un manque d'engagement. C'est quand même terrible. D'ailleurs, je vois un petit peu les réactions des auditeurs sur le foie gras. J'ai jamais dit qu'il fallait interdire le foie gras. J'ai jamais dit qu'il fallait plus manger de viande, etc. C'est extraordinaire. On ne peut pas être nuancé.
Ouais. Il n'y a plus de nuance aujourd'hui
regardez,
dans le débat public.
Moi, quand vous dites que c'est minoritaire, je suis pas tout à fait. Alors on va laisser Jacques Mia répondre aussi, mais je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce sont des minorités, mais qui tentent d'imposer à la majorité un mode de pensée, un mode de fonctionnement. Je veux dire, c'est le Joyeux Noël à 10 ans.
Il y a une idéologie.
Il y a une idéologie qui est là. Donc vous avez raison sur votre coup de gueule et sur l'emballement médiatique sur un truc qui n'était pas vrai, mais en même temps, on voit aussi de plus en plus.
C'est pour ça qu'il faut rentrer en résistance.
Alors, Jacques Mirard, vous en pensez quoi?
Écoutez, c'est très simple. Mon collègue du Parti Socialiste a raison de dire qu'il y a eu une erreur de communication et Sophie a raison de dire qu'il faut arrêter de voir l'actualité avec, les gourous de communicants. Parce que ça, c'est un problème. Moi, j'en ai jamais eu et j'en aurai pas. Mais ce qui est clair, je viens de faire l'éditorial du magazine de la ville où j'ai dit « Joyeux Noël ». Et j'ai rappelé que Noël, c'est soit une fête religieuse pour certains, soit la nouvelle lumière, Noël grec et Hélios, qui est la nouvelle lumière du solstice d'hiver. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans notre civilisation, que ce soit chez les Germains, que ce soit chez les Celtes ou que ce soit chez les Romains. Donc, il est manifeste que ça appartient à notre culture et il n'y a aucune honte à dire « Joyeux Noël ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi qui suis agnostique, je peux vous dire que j'emploie cette expression et que je le dis très clairement. Mmh. Mais gardons-nous justement des dérives et de hégémonie, surtout quand c'est une opération commerciale, parce que là, c'est une erreur. Et puis voilà, je connais bien Éric Ciotti, c'est pas la fâcheuse faire. Il y a un moment, il faut arrêter aussi.
C'est pas le genre à pas souhaiter Joyeux Noël.
Non, mais c'est le contraire.
Il affirme ce qu'il est, mais c'est notre culture. Voilà, puis point barre.
Ouais. Je continuais sur cette commissaire européenne donc, qui a rédigé un guide hein, à l'intention des députés européens. Donc, il ne faudrait pas l'utilisation du masculin par défaut doit être prohibée. Et l'adresse, mesdames et messieurs, remplacée par chers collègues.
Mais quelle thèse, elle est hors de sa compétence.
Les termes à connotation genrée comme workman, c'est ouvrier comme, sont également à bannir.
Mais c'est comme l'écriture inclusive.
C'est pas la commission, c'est une parlementaire, non ?
C'est une
parlementaire.
Une commissaire européenne. Elena Dalli.
Inadmissible.
C'est un document interne à la Commission européenne qui suggère de supprimer certaines expressions.
Après, on s'étonne pourquoi on est anti-commission.
Ben voilà.
Non, mais c'est catastrophique.
Allez, Nicolas Jeannetet, vous, c'est un coup de gueule ?
Oui, c'est un coup de gueule pour revenir sur la crise migratoire qui est devenue aujourd'hui une crise diplomatique. En Biélorussie, on a un dictateur qui a fait venir des migrants pour servir de monnaie d'échange dans une relation diplomatique. La Pologne a construit un mur. Du côté de Calais, la Grande-Bretagne refuse toujours de négocier, renégocier les aides du Touquet et refuse d'accueillir des migrants. Et pendant ce temps-là, on enchaîne réunion sur réunion, on fait des réunions européennes, des sommets, on débat. Et pendant ce temps-là, vous avez encore 2 000 à 3 000 personnes qui sont en train de crever de froid à la frontière. À Calais, vous avez 1 500 migrants, même si on leur donne un peu de nourriture le soir, qui dorment la nuit. Et je voudrais que... De quoi parle-t-on ? On parle quand même d'êtres humains qui ont quitté leur pays. Pas pour se faire plaisir, pas pour aller au soleil. Ils ont quitté leur pays parce qu'il y avait de la guerre, il y avait des dérèglements climatiques, parce qu'il y avait de la misère. Certains ont même, on l'a vu la photo, cherché à aller rejoindre son époux. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on palabre dans des sommets européens pour savoir ce qu'on va faire demain, ben il faut d'ailleurs le faire, mais on ne résout pas immédiatement ceux qui sont en train de mourir à nos frontières.
Moi, je me pose la question tous les jours.
Mais c'était très simple. Il fallait ouvrir en Biélorussie un hotspot, c'est-à-dire qu'il fallait ouvrir un bureau spécial d'immigration pour régler le problème de ces 3 000 migrants qui étaient là. Et en Angleterre, il fallait demander aux Anglais d'envoyer des fonctionnaires de l'immigration pour traiter les 1 500 personnes.
Vous avez raison, mais il y en a des triples lendemains.
Sans créer un appel d'air, parce qu'il fallait regarder bien les dossiers, en expulser certains d'ailleurs, renvoyer dans leur pays, mais... Comme forcément les pays sont en guerre, on ne va pas pouvoir les renvoyer. Mais on ne peut pas laisser aujourd'hui, pendant qu'on palabre dans des discussions interminables. Il y a des femmes, des enfants qui sont en train de mourir. Il y en a encore 2 qui sont morts cette nuit en Biélorussie. Et hier ou avant-hier, il y a encore un jeune qui s'est fait par un camion, c'est pas par la mer, mais par un camion, vers l'Angleterre. Donc il y a un moment, oui, il faut remettre à plat toute notre politique migratoire européenne. C'est évident. Mais pendant ce temps-là, il faut régler le sort de ces personnes qui sont en train de mourir. Mais excusez-moi, je suis de centre droit, mais là j'ai honte. Je suis indigné et j'ai honte pour mon pays. Voilà.
Pas pour mon pays et pour tous les pays.
Je partage totalement.
Oui, Romain
Colas. 31 morts la semaine dernière. Il y a une grande hypocrisie du Royaume-Uni qu'il faut quand même dénoncer sur cette affaire-là.
Même parce que
l'appel d'air, en l'occurrence, ça me gêne toujours d'employer cette formule-là, mais j'en ai pas de meilleure à cette heure, s'agissant d'humains ainsi que vous venez de le décrire. Mais l'appel d'air, il existe vers la Grande-Bretagne pour la simple et bonne raison que, malgré ces airs de matamor, Boris Johnson et son gouvernement accueillent, dès lors qu'ils ont survécu à cette traversée, accueillent les migrants parce qu'ils constituent, pour l'économie britannique, une main-d'œuvre à bas coût, taillable et corvéable à merci, et qu'elle est utile à la croissance britannique. Donc on a une formidable hypocrisie du gouvernement britannique en la matière, parce que l'appel d'air, il existe du fait même de la politique du travail au Royaume-Uni.
Oui, mais je vous dirais que l'intégration se fait par le travail et que dès qu'il y a des émigrés qui trouvent à bosser, c'est bien. Et quant à en France, il faut arrêter de dire que on les paye. Il y a un SMIC. Il y a quand on le déclare, parce qu'il y a énormément d'entreprises.
Mais donc on peut déclarer des gens qui sont en situation irrégulière.
Ah non, mais ce qui est extraordinaire, c'est la folie du pays. Vous savez que
on rappelle votre livre, La France sans dessus dessous.
La France sans dessus dessous. Je me bats avec la CGT contre ça, c'est tout dire. Vous avez besoin de 24 feuilles de salaire
aux côtés
avec la CGT. Vous avez besoin de 24 feuilles de salaire pour avoir des papiers et vous avez interdiction de travailler quand vous êtes sans papier. Donc nous, c'est vrai, les boîtes les emploient beaucoup dans des secteurs qui d'ailleurs n'arrivaient pas.
La restauration,
mais tous,
etc.
Le bâtiment, l'aide à la personne,
on manque de main-d'œuvre.
On les déclare, ils montrent des faux papiers, c'est pas au chef d'entreprise de vérifier, donc bon, voilà. Ils les déclarent eux-mêmes PD.
Et au bout d'un certain nombre, ils ont le droit à un titre de séjour.
Mais si vous 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 faites piquer, entre guillemets, un contrôle, l'amende est gigantesque pour le chef d'entreprise. On en a un qui, actuellement, qui a 4 crêperies, qui emploie des gens depuis 2 ans. Et nous demandons un permis de séjour pour ceux qui ont un contrat légal. D'accord. Point. Ouais, avant, d'accord. Après, vous vous débrouillez.
Alors, Jacques Mire n'est pas d'accord.
Oui, non, mais attendez. Salut les marchands d'esclaves, hein. Parce que franchement, quand j'entends ça, je suis révolté, Sophie. Révolté.
Par quoi ?
Comme dans un pays où il y a 3 millions de chômeurs et qu'on n'est pas capable, effectivement, de les remettre au travail par la formation professionnelle, franchement, non. C'est exagéré. D'autre part, il faut savoir que
ils veulent pas de boulot. Ils sont beaucoup mieux au chômage pour ces boulots.
Sophie, je suis désolé. C'est inadmissible ce que vous venez de dire. Inadmissible. Et vous êtes une marchande. Ça, c'est la
réalité. Jacques Millard.
C'est la réalité. Jacques Millard. Attendez, on doit marquer une pause. Je vous redonne la parole, Jacques. Je vous donne la parole. Calmez-vous. On va en débattre. On va y revenir parce que c'est un vrai sujet. C'est aussi la réalité. Il y a aujourd'hui. Regardez les.
Celle de Sophie de Menton.
D'un directeur de centre d'apprentissage. Vous allez voir ce que je vais vous dire.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio avec Jacques Myard, Nicolas Jeannetet, Sophie de Menton et Romain Colas. Jacques Myard, vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Sophie de Menton.
Non, mais je voudrais
revenir. Alors allez-y.
Je suis marchande d'esclaves, je le répète pour les auditeurs.
Un instant, Sophie, s'il vous plaît. Cette question de l'immigration, c'est un problème extrêmement complexe. Il n'y a pas une solution, il doit y avoir une série de solutions. Commencer par stabiliser la démographie des pays africains qui explose et qui, aujourd'hui, est un problème majeur, qu'on le veuille ou non. Hein. Quand vous avez 7 enfants par femme au Niger, quand vous avez le Nigeria qui va être à 350 millions d'habitants dans les projections que nous avons, l'Afrique est le seul continent où la transition démographique n'a pas lieu. Elle a lieu partout dans le monde, sauf en Afrique, qui est à notre porte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut casser l'appel. Et je suis d'accord avec Romain à ce propos, c'est qu'il y a un appel et que les Anglais sont dans une totale hypocrisie avec des passeurs qui font des affaires sur ces pauvres gens. Et
mais que, non, ce n'est pas le problème des passeurs.
Attendez
mais s'il y a des passeurs, c'est qu'il y a une offre.
Écoutez-moi, ce n'est pas simplement...
Ce n'est pas des mafias, d'ailleurs.
C'est le problème, effectivement, qu'on doit dire « urbi et orbi », on arrête l'immigration pour contrôler les flux migratoires.
Mais ça ne s'arrête pas, l'immigration. L'immigration zéro, ça n'existe pas, Jacques.
Impossible, sans compter le réchauffement climatique.
Vous
ne
pouvez pas empêcher quelqu'un de migrer.
Tous les pays, tous les peuples de ces pays lisent à livre ouvert dans notre politique et savent que s'ils y arrivent, ils auront des difficultés pendant 6 mois et qu'ensuite on va les régulariser. Exactement ce qu'il ne faut pas donner comme message. Parce que vous continuerez à avoir des gens qui vont venir. Donc c'est un problème d'appel qu'il faut casser. Nous sommes responsables et les gouvernements sont responsables de ça parce qu'ils créent l'appel à longueur de temps. Et qu'on ne vienne pas nous dire... Parce que maintenant, en Syrie, il y a des zones qui sont tout à fait stabilisées et qui ne sont pas en guerre. En Irak également, il y a effectivement aujourd'hui un appel mondial à venir en Europe qui est le nirvana pour ces peuples. Donc, il faut pianoter sur toutes les dispositions, mais ne vous trompez pas, nous sommes au début des migrations et pas à la fin.
C'est vrai, tout à fait. Alors
deux choses très rapidement, Jacques. Bien sûr, il faut arrêter cet appel d'air et je prendrai même l'exemple, excusez-moi, d'Anne Hidalgo qui avait lancé un slogan réfugiés welcome. Et d'ailleurs,
c'est criminel.
En Afrique, je finis. En Afrique, effectivement, les jeunes sont sur leur Facebook et ils voient que sur Facebook, la mairie de Paris dit réfugiés welcome. On va vous offrir l'école, etc. Et donc, ils prennent le bateau et ils partent. D'accord. Ça, c'est le premier point. Ouais. Deuxième, c'est l'exemple de mon fils. Mon fils, il est parti, en regardant Facebook, sans mafia, sans rien, ils partent. Ils quittent le Sahara.
C'est pas un Hidalgo qui provoque l'immigration.
Non, mais il y a un message.
Vous parliez d'appel d'air, c'est un message.
Il faut décourager.
De mémoire, le message était une réaction à toutes celles et tous ceux.
qui, je me souviens, au moment des vagues migratoires qui étaient liées à la situation en Syrie, nous disait que ces gens-là, il fallait les laisser crever à nos frontières.
Non, il faut décourager, effectivement. Alors. Il faut éviter un appel d'air. Et d'ailleurs, il faut pour cela que les pays d'appel, les pays de départ, fassent des grandes opérations d'éducation dans les écoles pour décourager les jeunes. Bon, ça, c'est important. Mmh. Et puis, il faut, bien évidemment, un plan Marshall de croissance partagée pour que ces pays se développent et éviter que les jeunes partent.
Mais ils n'ont pas envie qu'ils restent non plus. Hein.
Ils les mettent dehors.
Mais non, ils ne les mettent pas forcément dehors.
Bien sûr que si. Ils disent, après tout, qu'ils vont avoir des retours.
Après, on ne pourra jamais empêcher, Jacques, c'est humain, on ne pourra jamais empêcher quelqu'un de migrer d'une région à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. C'est naturel. Il y a des dérèglements climatiques, il y a des guerres. C'est animal. Regardez même nous, au niveau de la France, on a tous migré d'une région, pas moi, mais d'une région à une autre quand il y avait le Covid, parce qu'on était enfermé. C'est naturel de partir, c'est naturel de migrer.
Bon. Alors,
voilà, non, donc maintenant, il faut effectivement une grande nouvelle politique migratoire européenne. On ne pourra jamais fermer les frontières.
Mais il y a un moment, il faut savoir maîtriser les flux. Or, aujourd'hui, on ne les maîtrise plus parce qu'on a Schengen qui est une passoire, on a des règlements européens et comme tu viens de le dire, on vous accueille et ils le voient et ils le savent. Mmh. Donc, ils se disent, on va en baver pendant 6 mois, voire 1 an et après… Bon.
Enfin, ils voient que ça dure parfois plus longtemps aussi. Alors, Sophie,
un petit coup de cœur, ça fait du bien.
Oui, parce qu'on a que des coups de gueule.
Ah là là. Et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un chef d'orchestre qui s'appelle Spinozzi, qui est un génie qui est reconnu mondialement. Et qui est évidemment, il a un orchestre, l'orchestre Matheus, qui fête ses 30 ans. Orchestre de musique classique, donc éblouissant. Et il est jeune, il doit avoir, je sais pas, 40 ans ou 45 ans, j'en sais rien. Il est éblouissant. J'ai été voir le 30e anniversaire au Théâtre des Champs-Élysées parce qu'il a lancé Mozart dans la cité, dans les cités. Et il est tellement doué que vous avez un concert de musique classique comme au Théâtre des Champs-Élysées samedi. Et tout d'un coup, il démarre et c'est une chanson, la cantatrice chante Dalida. Et tout d'un coup, il fait participer et toute la salle chante. Et donc il est chef d'orchestre de la salle et il est tellement doué, il y a du rap tout d'un coup, Mozart et ça succède à un morceau de rap et je trouve que quand on a des expériences comme ça, il est en dehors de cette administration culturelle qu'on peut avoir, ce clivage de musique classique avec les jeunes qui disent ras-le-bol, c'est un génie, il ouvre la musique absolument à tout le monde avec une fantaisie incroyable, il a une stratégie artistique. Et je pense que c'est une façon de réconcilier justement complètement les pays. Allez voir le site Mozart dans la cité, c'est absolument fabuleux. Ah, sur Facebook d'ailleurs, ensemble, Matheus aussi. Et c'est une initiative culturelle qui est exceptionnelle. Il faut vraiment aller voir ça et se rendre compte qu'on réconcilie tout le monde avec un talent inouï.
Allez, on se retrouve dans quelques secondes. On va parler de Joséphine Baker, entre autres, et puis de la candidature d'Éric Zemmour. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Joséphine Baker entre au Panthéon aujourd'hui. Un coup de griffe tout de même pour Rokhaya Diallo, pardon. Rokhaya Diallo qui a publié un article dans le Washington Post, une tribune en disant « Joséphine Baker au Panthéon n'efface pas le racisme omniprésent en France ». Donc voilà. Donc cette,
Rokhaya Diallo qui publie dans un canard américain qui s'est montré, je dirais, le paragon de l'esclavage. Alors, quelle se taise.
Oui, mais donc voilà, je trouve ça minable de...
Elle est minable.
De faire ça. Alors, je précise aussi qu'elle a...
Entre deux défilés de mode, elle a dû dire ça.
Oui, hein, parce qu'effectivement, elle s'est fait épingler sur les réseaux parce qu'elle était habillée en Gucci, qui était épinglée pour faire travailler les Ouïghours. Enfin bref, tout ça, on n'en finit plus de cela. Mais surtout, elle préface aussi un livre, une sorte de... Alors, c'est ce que disent certains, une sorte de Mein Kampf, je mets des des guillemets, version woke, indigéniste, où le blanc est désigné comme une race en voie d'extinction et son patrimoine génétique une anomalie de gènes récessifs. Voilà exactement le livre qu'elle préface. Donc je sais pas pourquoi elle fait ça, pourquoi ce besoin de au moment où on honore Joséphine Baker.
Et c'est je quand même pas commenter.
Alors
moi,
on ne l'aurait pas fait, on se serait fait insulter. On le fait, elle insulte la France. Je trouve ça assez minable. Passons.
Ouais, passons. Non, ne commençons pas.
C'est tout ce que ça mérite.
Oui, oui, non, mais
c'était bien de le dire.
Bah oui, oui, oui. Je trouve que voilà, 46 ans après sa mort, c'était en 75. Elle revient. On redécouvre Joséphine Baker. On découvre que c'était une femme, une résistante, que c'est autre chose qu'une meneuse de revue avec des bananes autour de la ceinture et des plumes qui menait des revues. Elle a eu une vie assez incroyable.
Une antiraciste.
Antiraciste. Elle avait adopté. Peut-être qu'on peut réécouter je prends un peu notre réalisateur de cours, mais ce son qu'on a eu dans le zapping de Gilles Gansman ce matin, c'était un extrait, c'est une interview qu'elle donnait où elle expliquait pourquoi elle avait voulu adopter des enfants.
10 enfants, je crois. Oui, 10 enfants.
Absolument. Hein. Écoutez, donc c'est un document. Donc au départ, il y a la journaliste qui parle et vous l'entendrez après, elle, parler.
Akio est un rescapé de la guerre de Corée. Marianne et Brahim, des survivants du massacre de Palestro. Chaque année, elle agrandit sa famille d'un ou deux bébés, poursuivant son idée.
Et voyez-vous, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu tellement de incompréhension entre les êtres humains, les soi-disant adultes. Et j'étais sûre qu'avec les tout petits enfants innocents, ils pouvaient donner un exemple absolu de la fraternité mondiale.
1968, 5 colonnes à la une. Vous vous rendez compte? Et là, ses enfants viennent justement lui rendre hommage aussi dans les médias. Vous disiez, Sophie, c'est
ses enfants. Bah, je disais
que. Alors, il faut savoir que quand on nomme quelqu'un au Panthéon, la seule personne qui a la décision exclusive, c'est le président de la République.
Oui, c'était il a eu
personne.
Raison.
Il a eu totalement raison. Et c'est assez. Et c'est malin parce qu'en fait, c'est insaisissable comme
position.
Non, mais
position. De toute façon, il n'y a même pas de débat. Certains pourront dire que c'est la pop culture qui rentre au Panthéon, mais la question ne se pose même pas. C'est une danseuse, une figure de la résistante,
de
la lutte antiraciste. Elle a adopté 10 enfants. Elle a été agent secret. Enfin,
et moi j'ai appris tout ça finalement. Je la connaissais
j'ai deux
pas bien.
Âmes, mon pays et Paris. Donc, ouais.
Alors, si j'étais caricatural, pour faire peut-être la transition avec Romain le sujet Colas. Qui vient après, c'est pour ça qu'il y a parfois l'actualité percute. C'est l'anti-Zemmour. C'est exactement l'anti-Zemmour.
Et le jour où il se déclare.
Joséphine Baker. Mais c'est, et je pense qu'il y a, il y a du surmoi il y a l'inconscient de Zemmour qui a parlé et qui lui a fait choisir cette date. Ouais. Parce que c'est exactement l'anti-Zemmour.
Exactement.
Il l'a peut-être fait exprès. Joséphine Baker, c'est l'universalisme. C'est la générosité. C'est les valeurs républicaines dans ce qu'elles ont plus beau. C'est l'immigration. C'est le fait qu'on s'apporte, les cultures entre elles peuvent s'apporter, peuvent fusionner et peuvent donner le meilleur. Bref, c'est l'anti-Zemmour, c'est l'anti-recroquevillement, c'est l'anti-haine, c'est la résistance.
Oui,
et je le dis parce que moi, j'ai été... Je veux dire, je suis socialiste et fils de pied noir. Donc, autant vous dire que je n'ai pas été élevé dans le culte de De Gaulle. Mais moi, je sais reconnaître, vraiment reconnaître, quel a été le rôle historique de Charles De Gaulle. Pour que la France existe, chaque Française, chaque Français est aujourd'hui dépositaire. Il est l'héritier dans ses droits, dans ses libertés, de ce que fut l'action de cet homme seul à un moment. Et quand on en est au service d'une idéologie rance, dégueulasse, raciste, à réécrire l'histoire au point même qu'on va mettre sur le même point Pétain et De Gaulle, excusez-moi, on n'a même pas le droit de citer. Donc Zemmour déclare sa candidature, tant mieux, j'espère que ça fera un grand pchit.
Alors,
et vive Joséphine Baker.
Romain,
Jacques Mira.
Oui, non, je voudrais ajouter une chose. Premièrement, je trouve que c'est une décision qui, effectivement, vient à propos. Ça, c'est le premier point du président de la République. Deuxièmement, Joséphine Baker, elle est l'exemple, entre guillemets, de l'immigré réussi, c'est-à-dire qu'elle s'est intégrée à un pays en épousant ses valeurs. Et les valeurs, c'est celles de la citoyenneté, comme vient de le rappeler Romain.
Mais c'est ce que dirait Zemmour.
J'ajouterais une chose, c'est qu'elle a vécu très longtemps dans ma circonscription, entre guillemets, qui n'est plus la mienne maintenant, au Vésinet. Et donc, elle fait partie aussi de l'histoire des Yvelines. Et je voudrais le souligner, parce que c'est une très grande dame. Et quand on chante « J'ai deux amours, Paris, mon pays et Paris », c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Mais c'est ça qu'on attend, et c'est la raison pour laquelle il faut se méfier quand même je dirais, des excès quand on montre du doigt tel et tel propos. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est qu'effectivement l'assimilation, l'intégration peut réussir, mais que malheureusement, dans un certain nombre de cas, il y a un refus de l'assimilation avec la volonté d'imposer des lois religieuses qui ne sont pas les nôtres.
Je vois sur Twitter quelqu'un qui dit « J'espère que la première question de Gilles Boulot ce soir à Éric Zemmour sera « Aujourd'hui est entrée au Panthéon une femme noire, immigrée, ayant adopté et qui déclarait qu'il n'existe pas de préjugés racistes en France pour les gens de couleur. Êtes-vous fier ?» Je ne sais pas si Gilles Boulot posera cette
question. Enfin, il va évidemment poser la question, question pas de façon-là.
Et Éric Zemmour d'ailleurs va répondre qu'il est...
Et que justement...
Justement, il est fier que lui aussi est fils d'immigré, d'origine algérienne, etc.
Et il est vrai que
ce
n'est pas tout à fait pareil que ce qui se passe aujourd'hui. Aussi, il faut quand même un peu remettre les choses.
Oui, non, c'est vrai.
Le même,
le contexte n'est pas le même. Mais je sens que les gens sont plutôt d'accord. Globalement,
elle a quand même
il y a une forme
de revenir deux fois aux États-Unis à une époque où il y avait un racisme énorme anti-noir, et elle est revenue quand même.
Et elle est une des seules femmes à parler le jour dans ce fameux rassemblement à Washington, juste
avec
avant
Martin Luther King, bien sûr,
avant le fameux I Have a Dream. Ce jour-là, elle s'exprime devant la foule.
Un courage
formidable. Femme catholique aussi. Ouais.
Alors un auditeur me dit, je ne le savais pas parce que je n'ai pas tout lu sur Joséphine Baker, alors lui dit la grande escroquerie du Panthéon, la dépouille de Joséphine Baker va rester à l'étranger, à Monaco. Mais, à Monaco, ça reste pas tout à fait la France. Et en fait, c'est un cercueil contenant de la terre venant des quatre coins chers à son cœur qui sera installé au Panthéon. Je l'ignorais. Donc,
c'est un beau symbole.
Je vous livre cette information. Parlons donc d'Éric Zemmour, sa candidature. Dans quelques minutes, il a mis un petit sablier ce matin sur Twitter. Il est en passe d'annoncer sa candidature sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui a été enregistrée, un message aux Français qui sera diffusé tout à l'heure. Après cette annonce, il sera invité donc ce soir au journal de France 2. La CGT solidaire et des militants antifascistes ont déjà promis une manifestation pour faire taire Zemmour à 13h dans la capitale. On pourra parler également des antifas. Le timing, donc ça fait des semaines et des semaines que les uns et les autres pronostiquent de la date à laquelle il va s'exprimer. Bon, il fallait bien que ce soit un jour. Pourquoi aujourd'hui ? Est-ce que suite à ce qui s'est passé à Marseille, il a improvisé ou il l'avait vraiment décidé ? Vous en pensez quoi, Jacques Myard, en termes de timing ?
Je vais vous dire une chose. Qui sait Zemmour ? Moi, je ne le connais pas.
Bah, voilà. 17% d'intention de vote, enfin entre 14
et
17%.
D'accord. Bah, on en reparlera. Oui, donc, je ne vais pas lui faire de la pub, donc je préfère ne pas commenter.
Je pense qu'ignorer le phénomène n'est pas non plus très intelligent. Non. C'est mépriser des tas de Français qui ont cru à un moment donné, surtout au début, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Il y a énormément de gens et tout le monde vous dit on est assez content qu'au début, il ait donné un coup de pied à la fourmilière et il a inspiré des réactions sur la sécurité qui n'auraient peut-être pas eu lieu spontanément. Qu'il est complètement disjoncté à un certain moment est certain. Il est certain qu'on n'a pas du tout envie, il n'a pas la carrure de se présenter, ni d'ailleurs les valeurs qui conviennent, mais je veux dire, voilà, on ne méprise pas les gens qui ont cru. C'est d'ailleurs une déception certainement pour énormément de gens.
Je ne méprise pas du tout les gens. Je veux simplement dire par là que plus on en parle, et c'est ce qui s'est passé dans les médias, plus il est monté. Donc c'est là le problème.
Mais vous pensez que
ça a été une création, ça a été une création médiatique. Maintenant, je comprends parfaitement nombre de mes concitoyens qui ont le ras-le-bol d'un certain nombre de choses. Mais c'est à nous de le traiter et pas à lui.
Oui, mais lui, il a réussi à sortir.
Attendez, le chemin est long.
Oui, mais, de toute façon, c'est vous à Marine Le Pen.
Mais,
alors,
mais vous ne pouvez pas nier aujourd'hui qu'il a... En tout cas, il est crédité d'entre 13 et 16% des votes. Certes, il a atteint un plafond, mais ce sont des Français qui ont dit qu'ils voteraient pour lui. Donc, c'est pas...
On ne peut pas l'écarter
en disant ça n'existe pas.
La semaine qui a été choisie.
Non, mais là, je crois qu'on refait l'histoire. Ça a été une création médiatique totalement. Et donc,
de France 2, d'RTL et de CNews.
Est-ce que ce sont les médias qui font les candidats ? C'est tout le problème. C'est toute la responsabilité.
Aux États-Unis, Trump a été aussi fait par les médias.
Mais je suis d'accord.
On est dans une société médiatique où, malheureusement, beaucoup de chefs d'État.
Les thèmes qui ont été évoqués, les thèmes qui ont été évoqués sont souvent des thèmes réels, et ce n'est pas farfelu. Oui. Maintenant, les solutions, j'attends de voir.
Non, oui. Mais comme beaucoup, on pouvait aimer le polémiste parce que sur CNews ou sur France 2, il provoquait un peu le débat, il nous permettait de réfléchir sur nous-mêmes, etc. Autant, effectivement, le passage de polémique à journaliste, cette moue est très difficile et je pense que ça va faire plouf ou faire pchit, comme le disait la une d'un journal. Oui. Cette semaine...
Non, c'était Jacques Chirac.
Mais cette semaine, d'ailleurs...
De toute façon, les médias sont en train de le lyncher.
Il est assez grand pour se lyncher tout seul.
Olivier, un auditeur a raison, il dit que Macron était aussi une création médiatique. Quand on voit toutes les unes qu'il y avait eu
sur lui.
Oh. Enfin, il avait été ministre. Enfin bon, quand même, pendant un certain temps...
Anne Hidalgo aussi, elle est à la une des médias.
On n'a pas entendu Romain Colas.
Moi, j'ai déjà dit beaucoup de ce que j'en pensais. Je pense que... Il avait arrêté depuis longtemps, d'après ce que j'ai lu, la volonté date. D'exprimer sa candidature, en tout cas cette semaine, pour la simple et bonne raison que le candidat de LR sera connu d'ici la fin de la semaine et qu'il voulait cranter, comme on dit en communication, il voulait cranter la séquence avant que LR ne désigne son candidat.
De toute façon, il
n'avait pas le choix,
il est tellement en baisse qu'il fallait un moment qu'il remonte.
Voilà, le déplacement calamiteux à Marseille. Et Zemmour, je vais vous dire, une qui doit se réjouir vraiment du fait qu'il reste dans le débat public, c'est Marine Le Pen. Parce que par ses outrances,
par son discours
aux antipodes, pardonnez-moi, d'un certain nombre de valeurs que tous les républicains peuvent avoir en partage, il la ferait presque passer pour une modérée.
Oui, oui.
Et donc, elle se régale, Marine Le Pen. Et aujourd'hui, on a des Françaises, des Français qui considèrent, oulala, je vais voter Le Pen pour faire barrage à Zemmour. Enfin, on en est presque là.
Oui, alors avec quand même une grande question quand même aujourd'hui, est-ce qu'il y aura quand même un moment ou un autre une alliance Le Pen-Zemmour? Et ça, moi, désolé, j'y crois de plus en plus.
Zemmour
va baisser, il va baisser de plus en plus.
Zemmour s'effacer derrière une femme. Oula.
Jamais,
orgueil de mal.
Jamais.
À un moment, je pense que les intérêts vont se retourner. D'ailleurs, les amis de Marine Le Pen sont beaucoup plus indulgents vis-à-vis de Zemmour depuis quelque temps. Et je pense que plus la date de l'élection présidentielle va approcher, plus il y aura effectivement entre les deux éventuellement un rapprochement.
Enfin, il faut se poser des questions. Quand vous additionnez les deux, ça fait à peu près 35% des Français, Marine Le Pen, Zemmour.
C'est vrai.
Alors, excusez-moi, il faut se poser des questions.
Ce matin, elle était l'invitée. Elle était l'invitée du Grand Matin Sud Radio et elle l'affirmait, Éric Zemmour est un polémiste, pas un candidat à la présidentielle. Il a beaucoup de qualités tant que polémiste, moins en tant que candidat. Donc c'était ce matin
vous rendez compte qu'on a souvent reproché à Emmanuel Macron, au début de son mandat, de ne pas être dans la posture d'un homme d'État, parce qu'il n'avait jamais été élu. Il avait juste été ministre. Vous rendez compte, Zemmour, qui est un simple journaliste, qui n'a eu aucune fonction élective, mais comment il va se retrouver à la tête de l'État? On ne s'improvise pas du jour au lendemain
Il y a des journalistes qui ont fait des carrières politiques, qui savaient tenir leur mère aussi. Zemmour a un petit problème de comportement et d'absence de surmoi.
Et d'ailleurs, il a pris la grosse tête.
Mais justement, ça peut nous permettre de parler, parce que beaucoup ont fait remarquer que ce doigt d'honneur était en réponse à un autre droit d'honneur, qu'on a assez peu parlé des agressions dont il est...
sont inadmissibles également.
Dont il est l'objet, et de ces antifas qui, encore une fois, appellent à manifester. Alors je vous propose qu'on marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
Les débats avec vous, avec Jacques Myard, Nicolas Gentès, Sophie de Menton et Romain Colas. Alors on a un auditeur, Laurent, qui est en ligne avec nous, qui voulait réagir à notre débat à propos d'Éric Zemmour. On vous écoute, Laurent.
Oui, bonjour à tous. Donc pour être rapide, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs candidats avec des idées similaires à 80% pour avoir une chance de victoire au deuxième tour. Parce que si vous partez seul avec un idéal, vous êtes au maximum de votre électorat, quoi. Vous avez déjà récolté toutes les voix au premier tour. Donc le barrage du premier tour, c'est-à-dire pour passer au second tour, est très important. Et s'il y avait même 5 ou 6 candidats de la droite similaires, ce serait encore mieux. Parce qu'il y aurait au moins un électorat total de plus de 50% à la sortie.
Oui, alors vous oubliez,
la victoire serait acquise.
Vous oubliez une chose, c'est qu'en en politique, celui qui arrive en tête, même au premier tour, bénéficie d'une ce qu'on appelle une dynamique et est favori pour le second tour. Donc plus il y a candidats, par exemple, de droite qui sont dans, autour de 10, c'est le candidat qui arrive en tête qui a toujours une dynamique. C'est comme ça. C'est, et donc, avoir trop de candidats peut défavoriser une famille politique.
Oui.
Et puis ce qu'on peut souhaiter pour notre pays et notre démocratie, hein, même si je pense que l'élection présidentielle très objectivement rend fou, et qu'il y a quelque chose de pourri dans la Ve République, qui est une machine à créer de la désillusion. Non, ce qu'on peut espérer objectivement, c'est que le ticket d'entrée au second tour pour le deuxième qualifié sera plutôt à 20-25 qu'à 10 ou 15.
Bien sûr.
Parce que ça veut dire que les Françaises et les Français auront le choix entre vraisemblablement Emmanuel Macron, je crois, a ses chances d'être au second tour. Enfin, sauf accident de l'histoire, il a un socle qui est quand même assez solide et il est président sortant. Mmh. Voilà. Mais si le choix, c'est entre Emmanuel Macron et quelqu'un qui a fait 10 ou 15, ça veut dire clairement que les Français devront choisir encore une fois par défaut. Ils en ont ras-le-bol et que ça va encore créer de la désaffection entre le pays, nos concitoyens et les institutions.
Ouais, mais enfin, on peut pas dire que la gauche.
J'ai plaidé avec Olivier Faure. J'appartiens à la direction nationale du Parti Socialiste. J'ai fait partie de ceux qui ont contribué assez largement à ce que Olivier Faure devienne premier secrétaire du Parti Socialiste quand j'ai dirigé sa campagne, puis ensuite son cabinet. Et tout ce que nous défendions, nous, c'est en ayant pris en compte les causes de la défaite des dernières présidentielles et législatives. Je veux dire, on peut pas se prendre une branlée pareille et se dire qu'on a fait tout bien, que les Français ont mal compris. Ce qui d'ailleurs nous a opposé à un certain nombre de nos propres camarades. Et la thèse que nous défendions, c'est que la gauche était dans une certaine façon dans une année zéro, qu'elle avait à se reconstruire et surtout à se rassembler.
La vérité,
c'est que Anne Hidalgo, et je termine. Je regrette que la gauche dite de gouvernement n'ait pas été en capacité de se rassembler, notamment parce que Europe Écologie Les Verts a considéré que c'était l'erreur maintenant et qu'il fallait nous passer devant au détriment de l'intérêt peut-être supérieur de ce peuple de gauche qui continue à espérer de nous. Quant à Anne Hidalgo, alors je sais que l'Hidalgo bashing est à la mode.
Non, c'est à Paris surtout.
Et elle fait une campagne aujourd'hui au quotidien. Alors c'est pas Zemmour, c'est pas voilà, sans les caméras, elle est tous les jours dans la France, dans des villes moyennes, dans des métropoles de province. Mais écoutez, ça se passe plutôt pas mal.
Oui,
donc il y a une campagne à bas bruit. Elle fait ce qu'on peut attendre, je crois, de quelqu'un qui prétend à diriger le pays. Elle va vraiment à la rencontre des Français. Elle bosse.
Enfin, ça marche pas.
Et là, on verra quand au moment. Je ne prophétise rien. Voilà, je suis humble par rapport à ça. Mais à un moment, les Françaises, les Français se poseront la question de des raisons qui vont motiver leur choix.
Laissez parler Jacques Mira parce qu'il est à distance, donc c'est toujours difficile d'intervenir.
Premièrement, je suis intimement convaincu que ces élections présidentielles vont mobiliser les Français parce qu'il y a une offre très diverse qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc, il y aura une participation.
C'est le seul scrutin qui mobilise les Français, d'ailleurs.
Je vous rappelle, monsieur...
Laissez-le terminer.
Nicolas. Laisse parler. Voilà, merci. il est clair que... Je rappelle qu'aux États-Unis, on a entre 35 et 40% de votants aux élections présidentielles. Nous dépasserons, je suis intimement convaincu, les 70, 75, voire 80. Donc ça, au premier tour. Ça, c'est évident. Donc, il y aura un débat démocratique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, il ne faut pas dire qu'il y a quelque chose de pourri avec la Ve République. Non, je crois que le suffrage universel a raison. Donc, ça, c'est le point. Ensuite, bien évidemment, moi, je vais vous dire ce que je pense.
En Allemagne, aussi, un suffrage universel.
Laissez-le
terminer. Il va falloir venir à une dialectique droite-gauche réelle. Droite-gauche, qui est le fondement même de la démocratie. Alors, on nous dit que c'est la même chose. Non, mais il y a des problèmes qu'il va falloir résoudre, que ce soit les problèmes d'investissement, que ce soit les problèmes de la réforme de l'Union européenne, soit les problèmes de sécurité et autres. Ces problèmes-là, ils sont devant nous. Et donc, c'est à nous de trouver des solutions. Et les Français nous suivront alors. Parce que les Français est un peuple... Les Français sont un peuple, politique. Ne l'oublions pas.
Oui.
Oui, non, oui. Mais on critiquait un peu l'élection présidentielle, parce que c'est vrai qu'on est, on tend vers un régime presque monarchique. On pourrait très bien faire une élection à la type allemande. À la type allemande.
Et qui crée de la déception.
Qui crée des coalitions avec des vraies forces de gouvernement.
Ah bah oui.
C'est alors, intéressant. C'est une réflexion.
Hein. Macron, surtout, n'introduit pas la proportionnelle. Hein, parce
ah bah
que
non,
ça,
moi, au contraire,
c'est le meilleur moyen de rendre le pays ingouvernable.
Ouais. Sophie ?
Non, je pense que l'erreur fondamentale, en fait, c'est pas tellement Anne Hidalgo qu'il faut critiquer, c'est de l'avoir choisie comme représentante de la gauche. Parce qu'elle est sous influence des Verts, qui n'ont plus rien à voir avec la gauche, qui sont des idéologues absolus.
Ah non,
à la mairie, elle est complètement sous influence des Verts. Il n'y a qu'à regarder ceux qui sont là-bas et qui voient. Elle n'a pas les mains libres, elle ne peut pas développer des thèses de gauche. On aimerait avoir une opposition. Moi, je ne suis pas à gauche. Et je considère qu'un pays doit avoir une opposition très respectable et avec laquelle on peut dialoguer, etc. Les extrêmes n'ont pas d'intérêt. Et finalement, notre pays, finalement, se résume maintenant à des Montebourg, à des Zemmour, etc. C'est très ennuyeux. Donc, je pense qu'il y a à gauche des... Je pense à Cazeneuve, qu'on a reçu à Éthique, qui est un homme d'État. C'est vraiment terriblement dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un de cette trempe qui soit présenté. Il y en a d'autres.
Un homme d'État, mais il n'est pas charismatique, non.
Oh, non. Faux.
Bon, en tout cas, Anne Hidalgo, de toute façon, je pense maintenant, contrairement à ce que je pouvais penser il y a quelques jours, va continuer, puisque les Verts sont empêtrés maintenant, sont en train de baisser, et sont empêtrés dans les affaires de Nicolas Hulot. Et donc aujourd'hui, le départ d'Anne Hidalgo vers les Verts, je pense maintenant, est impossible, parce que les Verts ont déjà un problème existentiel aujourd'hui à résoudre au sein de leur famille politique.
C'est une bonne chose, ça.
Et donc, voilà, je pense
et
maintenant...
Et donc, elle n'est pas sous l'influence des Verts dans cette élection présidentielle, précisément, elle est en concurrence
que j'adore. Il va peut-être aller rejoindre Anne Hidalgo maintenant.
Récemment, mais depuis qu'elle est à la mairie...
Ce serait une excellente idée, puisse-t-il entendre ton appel.
C'est vrai, mais depuis qu'elle était à la mairie, c'était le cas à Paris. Maintenant, ça a changé.
Qu'est-ce que vous dites, Jacques Myard ?
Il faut offrir du foie gras au vert, comme ça la réconcilie.
Allez, et pour finir, une petite, une nouvelle perle de Rokhaya Diallo, l'attention portée aux courbes de Joséphine Baker m'indispose.
C'est de la jalousie, vous croyez ?
Vous lui répondez...
Une réflexion de machiste.
De machiste, attention.
Non,
mais comme vous avez dit hors antenne, si elle pouvait être indisposée en silence, ça nous arrangerait aussi. Allez, on va se quitter avec Joséphine Baker, J'ai deux amours.
J'ai deux amours, mon pays et Paris, par un jour, mon cœur est ravi, ma savane est bonne.
Voilà, j'ai deux amours et non pas j'ai deux amours, comme a dit Gilles Gansman ce matin. Très bon jeu de mots que je lui rends. Voilà. Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain sur Sud Radio. Très bonne journée avec André Bercoff dans un instant.